Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum l'Épargne, notre partenaire. Quorum l'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget, et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant, et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum l'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum l'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN. Et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
Salut Dorian.
Ça va ?
Ça va super et toi ?
Ouais, ça va très bien. Très content d'être avec toi aujourd'hui.
Bah également, écoute, j'ai fait plus de 170 interviews de champions et c'est la première fois que je rencontre un finaliste de Koh-Lanta en plus.
Ouais.
Et un grand passionné d'outdoor, de sport, qui touche à tout et qui dépasse les limites. Tu vois, j'ai l'impression que t'aimes bien découvrir aussi, aller chercher différentes disciplines, différents parcours. Donc, je suis sûr qu'on va se régaler aujourd'hui.
Ouais, il y a plein de choses à raconter.
Ouais, trop bien. Ouais, t'as un super parcours et On va sûrement digresser pas mal parce que t'as fait tellement de choses, ça va être difficile de tout couvrir. On se voit d'abord parce que tu sors un livre là actuellement qui s'appelle Mon Coach Running, que t'as écrit justement avec ton ami Julien, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Mais comme je te le disais, tu vois, on commence un peu toutes les interviews de façon chronologique. J'aime bien commencer par l'enfance pour comprendre, tu vois, qui sont les invités, comprendre un petit peu la magie de l'enfant qu'il y avait quand ils étaient plus jeunes. Et du coup, la question traditionnelle sur le podcast, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
Mon premier souvenir de sport réel, je pense que c'est la victoire de la Coupe du Monde 1998, comme beaucoup. Mais voilà, moi j'avais 9 ans, donc c'est les moments où on commence vraiment à avoir des souvenirs. Ouais. On se souvient pas forcément des souvenirs sportifs quand on a 4, 5 ans, 9 ans, ça commence vraiment à parler. Moi, du coup, je suis de Caen, en Normandie, et donc j'étais pas sur les champs, mais bien sûr que j'ai été descendu en centre-ville avec mon père pour fêter la victoire de la France en Coupe du Monde. Et c'est vraiment mon premier souvenir sportif qui m'a marqué, sachant qu'en plus je faisais du foot, donc vraiment j'étais dedans vraiment toute la Coupe du Monde.
Ouais, ok, trop cool. T'as commencé par le foot du coup?
Ouais, à l'âge de 5 ans, premier sport directement, j'ai commencé par le foot jusqu'à l'âge de mes 18 ans. Vraiment un passionné de football, passionné de sport avant tout. Je faisais de l'UNSS, je faisais du hand, du basket, du tennis de table. Vraiment tous les sports, je voulais prendre des licences dans tous les clubs. Mes parents me stoppaient, ils m'ont dit t'as le droit qu'à une licence. Donc c'est le foot qui a gagné cette licence. Et voilà, je suis très très content. Et je pense qu'en plus, le foot développe énormément de qualités physiques, que ça soit au niveau motricité, musculaire, etc., qui permettent derrière de s'épanouir dans d'autres sports comme la course à pied.
Ouais, exactement. Et puis t'as tout le côté un peu collectif, tactique, on s'en rend pas forcément compte, tu vois, quand on est un enfant, mais c'est de l'apprentissage, quoi, et qu'on t'apprend pas forcément à l'école, tu vois, à collaborer, à regarder derrière toi, à écouter, tu vois, enfin, écouter ses coéquipiers. Donc, j'en doute pas, ouais.
Ouais, puis voilà, c'est vrai que c'est un sport qui demande quand même pas mal de motricité, courir en tapant dans un ballon, en faisant une passe, en regardant, etc. C'est ce que tu disais. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire, ouais, le foot, on pousse la balle, etc. Mais je suis persuadé que c'est un des sports qui développe le plus de qualité physique. Voilà pour les enfants, et on apprend tellement vite quand on est enfant que on apprend tout de suite à courir, etc. C'est, je pense, très intéressant.
Ouais, carrément. Ouais, puis c'est pas un sport dans lequel il y a de la charge ou de la contrainte, tu vois, c'est juste toi, ton corps et un ballon. Donc certes, tu peux prendre des coups, mais c'est avant tout toi, ton rapport à ton équilibre, ta motricité, ton corps. Donc je veux
voilà.
Bien croire.
Puis quand t'es jeune, t'as pas du tout le côté business que tous les gens mettent en avant en disant ah, le foot, voilà, c'est vrai que c'est quand même le sport le plus populaire au monde, je pense.
Ouais.
Enfin voilà, j'étais très fier d'avoir fait du foot, mais je pense que tous les sports co, de toute façon, peu importe le sport que tu fais quand t'es jeune, c'est de l'apprentissage et c'est super important.
Ouais, complètement, ouais, complètement. Tu joues à quel poste du coup?
Alors j'ai commencé défenseur, j'ai fini ailier sur mes années plus vieux, 15, 16, 17. J'étais vraiment ailier, je faisais des allers-retours parce que je courais déjà beaucoup, quoi.
Donc, t'avais déjà le gabarit, ouais. Et un troisième poumon, c'est ça?
C'est ça, exactement. Je jouais pas sur mon physique, on va dire, pour mettre des coups d'épaule, mais par contre je pouvais tenir un match à faire des allers-retours, ça avait pas de problème.
Ok, trop cool. Trop trop cool. Et à quel âge du coup tu découvres la course à pied? Parce que là tu me dis que tu jouais jusqu'à 15, 16, 17 ans, donc est-ce que t'as découvert la course à pied plus tard ou est-ce que t'as réussi à mêler les deux?
J'ai essayé de mêler les deux, ça a été très vite compliqué. J'ai fait du coup 12 ans de foot et sur la fin je prenais moins de plaisir à aller à l'entraînement. J'avais plus cette passion et c'est vrai que de plus en plus j'ai fait un jour un 10 km à 15 ans parce que voilà, je sentais que j'avais des facultés à courir. J'ai essayé de faire un petit 10 km, je me souviens, j'avais un short de foot, maillot de l'équipe de France, des running et voilà, j'ai fait 39 minutes 10 km.
Wow.
Et du coup, je me suis dit 39 minutes 40 exactement, et je me suis dit OK,
sans
c'est cool.
Spécifique,
ouais, foot, j'avais 15 ans, je faisais du foot et je suis allé au départ d'un 10 km de Caen. Et voilà, et après du coup, à un moment donné, j'ai rencontré des gens, c'est aussi souvent ça, hein, c'est des opportunités, des rencontres, qui faisaient de la course à pied, qui m'ont dit mais viens dans notre club et tout, ça va être sympa, j'avais envie, j'ai essayé, et puis voilà, j'ai fait 1 an, 2 ans de découverte, jusqu'à un moment donné me dire si je veux essayer d'être performant, il faut s'entraîner, il faut se donner les moyens. Me suis donné les moyens et j'ai évolué comme ça, en me fixant des objectifs, et c'est comme ça que j'ai réussi à faire des performances plutôt correctes.
Trop bien, trop bien. Mais écoute, félicitations. Et je pense qu'il y a peu de gens qui vont faire leur premier 10K et claquer sous 40, quoi, tu vois.
Ouais, c'est vrai.
Pour un enfant, tu vois, il n'y en a pas beaucoup. Et je crois que maintenant, il y a plein de courses d'ailleurs qui sont interdites aux mineurs et que c'est plus possible, tu vois, pour en tout cas, sur Paris, je sais que toutes les courses ne sont pas autorisées.
Ah ouais,
aux juniors,
je pensais que parce que normalement cadet à partir de cadet, t'as le droit, je crois que c'est 16 ans, t'as le droit normalement si t'as une licence ou un certificat médical de pouvoir courir.
Écoute, à vérifier, mais tu vois, je me demande pas s'il y a des histoires de plan Vigipirate, toutes ce genre de choses, tu vois, des normes de sécurité un peu spécifiques.
C'est une info à vérifier.
Ouais, je veux pas dire de bêtises, dites-nous les auditeurs si vous savez, si vous bossez dans les fédés ou à l'organisation de courses, dites-nous, on sera content de le savoir. OK. Et qu'est-ce qui te plaît toi dans l'athlée? Est-ce que tu fais uniquement athlée sur piste ou est-ce que tu te prépares uniquement à de la course à pied ou est-ce que tu touches un peu à tout, tu sais, le fameux triathlon de l'athlée où tu fais un peu de saut longueur, un peu de lancer de poids aussi, t'as touché un peu à ces disciplines là?
Non, moi du coup j'ai pas commencé la course à pied, enfin l'athlétisme dans les catégories jeunes. Ouais. Dans les catégories jeunes, c'est vrai que t'as l'occasion de toucher à tout et c'est très très bien aussi. D'ailleurs, si vous voulez mettre vos enfants à l'athlétisme, n'hésitez surtout pas parce que c'est aussi très très enrichissant pour la suite, je pense. Mais moi, du coup, j'ai commencé direct 18 ans et donc on est déjà spécialisé. Ouais. Moi, je savais que je voulais courir. Donc, si tu me mets au saut à la perche, je pense que je suis catastrophique. Vraiment, c'est vraiment complètement différent. Donc, moi, je suis essentiellement vraiment sur la course. Hein, vraiment, course demi-fond dans un premier temps. Voilà, j'ai fait 1500, 3000 mètres steeple. C'est là où j'ai eu mon titre de champion de France national, notamment sur du 10 km. Et puis, derrière, il y a eu Koh-Lanta. Et après Koh-Lanta, j'ai eu envie de changer. Et là, j'ai un peu vrillé. Je suis monté sur semi, sur marathon, plus longue distance. Et là, récemment, sur des trails ou des courses un peu plus ultra, on va dire, qui sont un autre sport totalement. Je pense qu'on va revenir après, mais c'est vraiment différent. Et voilà, j'aime bien toucher un peu à tout. Et ce qui me plaisait dans la course à pied, moi, c'était le fait de prendre mes baskets, de pouvoir aller courir et de sentir que je progresse. Quoi, en fait, la compète, ça a toujours fait partie de moi. C'est vraiment mon ADN. Je suis compète dans tout ce que je fais, même au camping quand je suis au tournoi de tennis de table, je veux gagner. Et c'est vrai qu'en course à pied, c'est le truc qui me plaisait, c'est que je pouvais compter sur moi-même. Et le fait d'aller m'entraîner dur, bah ça me faisait progresser et de pouvoir perfer, c'était quelque chose qui me plaisait.
C'est vrai qu'il y a un côté très rassurant, tu vois, dans la course à pied où c'est un sport où tu maîtrises quand même beaucoup d'éléments. Tu vois, comparé à d'autres, je sais pas si je prends un sport de combat, tu peux pas contrôler ton adversaire, tu peux pas savoir le public aussi, ça joue énormément, j'imagine, même l'arbitre, tu vois, là sur effectivement sur l'athlée ou la course à pied, il y a plein d'éléments qu'on maîtrise pas, tu vois, la météo, effectivement les autres aussi, mais il y a un peu plus de, tu vois, de contrôle et du coup il y a un truc, il y a un vraiment exaltant où c'est toi avec toi-même, quoi. Il y a rien d'autre, quoi.
Et puis le sentiment de fierté. Je pense que c'est important quand on s'entraîne dur et qu'on arrive à notre objectif. D'avoir cette fierté, ça c'est primordial et ça peu importe le niveau. Ouais. Je veux dire que tu fasses 2 heures au marathon ou que tu fasses 4h30, si t'as atteint ton objectif, c'est ta fierté personnelle et tu peux être fier de toi. Franchement, ça c'est juste incroyable en course à pied et moi c'est ce que je retrouve sur beaucoup de mes courses. Et voilà, c'est ce que j'essaye de dire aux gens, c'est que c'est ton objectif, quoi. Enfin, il appartient qu'à toi. Donc si tu te fixes cet objectif et que tu le réussis, chapeau, franchement, on continue.
Ouais, exactement. Ouais. C'est vrai que t'as une satisfaction perso qui est hyper importante et il faut célébrer les petites victoires aussi. Tu vois, je pense, moi, je dis beaucoup justement aux gens qui m'entourent dès qu'il y a des bonnes nouvelles. Je dis ouais, qu'est-ce que t'as fait pour célébrer ça, quoi? Est-ce que tu t'es fait un petit cadeau? Est-ce que tu t'es fait un petit plaisir? Parce qu'il faut il faut savoir fêter et savourer les petites victoires. Et comme tu l'as dit, peu importe, tu vois, sans se comparer aux autres, en fait.
Non, bien sûr que non. La course à pied, c'est ça qui est intéressant, c'est que en vrai, quand tu prends le départ donc après ça dépend, quand tu vas sur des meetings sur 3000 steeples, effectivement c'est un peu plus élitiste, mais le running populaire, celui qu'on voit, les marathons, les 10 km, etc., tu te retrouves avec n'importe qui au départ, et il y a les élites, tout le monde est là pour la même chose. Et la même chose, c'est réussir son objectif et se faire plaisir et être fier à l'arrivée. C'est tout ce qui compte, et ça c'est vraiment, en course à pied, c'est un des seuls sports où tu peux voir ça, et franchement, ça c'est vraiment top.
Ouais, t'as tout le monde est sur la même ligne d'arrivée, avec le même parcours et dans les mêmes conditions, et au moins chacun est là avec soi-même, quoi.
C'est ça.
C'est cool. Donc tu l'as mentionné, t'as été champion de France sur 3000 steeples. Est-ce que tu as rêvé de haut niveau? Est-ce que quel a été un peu là ton rapport justement avec ce très haut niveau, tu vois? C'est quand même pas rien, tu vois, un titre de champion de France, c'est-à-dire ouais, tu règnes sur ta discipline, mais
ouais, je remets quand même l'église au centre du village, champion de France national, c'est en gros les 12 premiers vont au championnat de France élite et ouais. les 12 d'après, donc c'est quand même 24 sur toute la France hein, ouais. vont au championnat de France national. Du coup, j'ai fait champion de France national et au championnat de France élite l'année suivante, j'ai fait 7e. Ouais. Voilà. Ouais, mais du coup, oui, ça reste quand même c'est des performances clair. Pour être honnête, c'est des performances. Quand j'ai commencé la course à pied, moi c'est les gens que je voyais à la télé parce que ça passait sur la chaîne à la télé et je m'imaginais mais pas une seconde toutes les performances que j'ai réalisées, mais à aucun moment je m'imaginais faire ça. Et du coup, c'est vrai que c'est drôle et on en rigole souvent. Il y a des gens que j'idolâtrais, par exemple, parce que je les voyais faire 33 minutes 10 km quand moi j'en faisais 38, et ce qui est normal. Alors que derrière, en fait, j'ai réussi à faire 30 minutes. Enfin voilà, et ces gens-là, dans ma tête, j'ai toujours idolâtré parce que ça a été des gens inspirants. Des gens, on se fixe des objectifs. Je les voyais haut, beaucoup plus loin que moi, et du coup, j'avais envie d'aller à leur niveau. Et même une fois que j'ai dépassé leur niveau, en fait, je me disais toujours, ouais, ils sont trop forts, parce que dans ma tête. Bref, et tout ça pour dire qu'effectivement, ouais, j'ai vécu des émotions grâce à la course à pied assez incroyable, dont ce titre qui était pas du tout prévu et avec un dernier tour de folie où je suis quatrième à 400 mètres de la ligne et puis je me dis allez vise le podium et du coup je suis troisième, je suis content et le deuxième est pas loin, du coup je gère la deuxième place en disant on va finir au sprint et je sprint pour la deuxième place, le premier trébuche sur la dernière barrière, du coup ça me redonne un regain d'énergie et comme quoi en fait des fois il y a des coups de pouce du destin, il faut toujours y croire en fait, c'est que je vois ça, du coup je croyais que j'étais à fond, j'arrive à en mettre une. On finit ensemble sur la ligne, photo finish quoi. Et je gagne en 9-0-0-0-2 et lui fait 9-0-0-0-5. Et wow. Du coup, je suis champion de France. Donc ouais, c'est des émotions de dingue. Enfin voilà, il y a ton entraîneur qui est là et tout, il te regarde avec des gros yeux. Ça, c'est vraiment des moments incroyables que tu vis parce que tu t'es entraîné dur et tu l'as mérité. C'est jamais volé. Mais c'est vrai que c'est des moments forts. Hein.
Ouais, bien sûr.
Ça, mais... c'est incroyable. Ça me donne des frissons rien que d'en parler, de voir tout ça.
Ouais, mais c'est clair. Mais en plus, la compète, t'as vraiment un shot d'adrénaline sur une période très très courte. Donc quand tu gagnes et que ça se libère, c'est hyper puissant. Ouais.
Ce moment au départ, dans la chambre d'appel, etc., où ton cœur il s'emballe, tes pulses elles sont à fond, le stress là que tu détestes avoir, mais en fait pour lequel tu t'entraînes quoi. Ouais. Tu y es, tu dis ah c'est le moment de la compète et ça y est c'est maintenant.
Et ça ressemble à quoi à ce niveau-là la chambre d'appel? Je te pose la question parce que j'ai fait un épisode avec Jimmy Vico, le sprinter, et tu vois, et lui il a fait des chambres d'appel avec Usain Bolt, avec tu vois avec les plus grands, et il raconte tu vois dans l'épisode que certains vont regarder le mur parce qu'ils veulent absolument pas regarder les autres parce que tu vois il y a tellement de testostérone tu vois sur du 100 mètres c'est sûr. D'autres à l'inverse vont chanter, d'autres vont essayer de méditer. Il y en a qui sont hyper agressifs tu vois, qui sautent limite, ils donnent des coups de poing tu vois un peu dans le vide.
Ouais, ça c'est les sprinteurs.
Ça c'est les sprinteurs.
Moi j'ai jamais vu ça en demi-fond.
Mais du coup ça ressemble à quoi du coup une chambre d'appel? C'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus posé. Vous discutez entre vous, comment ça se passe?
En fait, déjà, il y a une tension. Il y a une tension quand tu rentres dans la chambre d'appel qui est là. Je sais pas comment t'expliquer ça. C'est que, bon, alors, il y a les championnats de France élite, mais aussi sur des meetings où tu viens pour des performances, etc. Il y a une tension qui est là où tous les athlètes mettent leur pointe. Ça y est, l'échauffement est fait. On va aller à la course et tout le monde est dans sa course. Donc, c'est quand même beaucoup de concentration. Moi, j'ai jamais vu des chambres d'appel où c'était vraiment le bordel, où tout le monde chantait, etc. Ouais, tu fais quoi ce soir? Mais par contre, après, voilà, c'est vrai que on se connaît un peu tous entre athlètes, etc. Et souvent, on va discuter. Bon, ça va. Il fait chaud aujourd'hui, ça va, t'es bien entraîné. On peut discuter de manière calme, bien sûr, mais voilà, le but c'est vraiment de bien respirer. On boit nos dernières gorgées, on essaye de se relâcher. Il y a des yeux qui sont fermés. Vraiment, il y a une tension, quoi. On sent que voilà, on va lâcher les fauves et que là, on prend toute l'énergie nécessaire pour être en forme dans 2 minutes, quoi.
Ouais, ok, ouais, c'est cool de l'entendre, tu vois. Et
ouais, mais
j'imagine un peu.
T'arrives à imaginer l'atmosphère comme ça. T'arrives, t'as 12 mecs qui sont là, ils sont tous là pour gagner. Ils ont les crocs, c'est les championnats de France. T'es sous une petite cabane, tout le monde est assis sur une chaise. T'es en train de mettre tes chaussures, tu vois. Vraiment, c'est poignant, ça fait peur, mais c'est galvanisant, quoi.
Ouais, c'est vrai. Et puis en plus, c'est un moment où tu te jauges, tu regardes un peu les autres, même si tu sais qu'il faut pas trop les regarder. Il y en a qui parlent un peu pour le combler le vide parce qu'ils se sentent un peu mal.
Exactement.
Tu vois,
sur cette chacun solitude, réagit différemment, ouais, c'est ça.
Il y a plein de comportements différents, mais c'est assez cool. Et ouais, à l'issue de ce titre, tu vois, tu te dis pas, tiens, et pourquoi pas moi? L'équipe de France, l'athlée, t'as dû y rêver un peu, non?
Je pourrais pas dire que j'y ai jamais pensé, ça serait mentir. Maintenant, il y a équipe de France, petite sélection, et il y a aller faire les Jeux Olympiques. Ouais. Clairement, les gens se rendent pas forcément compte, mais la marche pour aller aux Jeux Olympiques, elle est juste immense, vraiment immense. Donc, je pense que clairement, je ne dois peut-être pas avoir les qualités nécessaires intrinsèquement pour faire les Jeux Olympiques. Après, je pense sincèrement que j'aurais peut-être pu faire un peu mieux. C'est même presque certain, parce que voilà, des fois dans mes entraînements, surtout dans mon hygiène de vie, on va dire, et dans ma façon de vivre, voilà, je suis quelqu'un qui bouffe la vie à plein dents. J'aime trop me fixer plein de défis, etc., et faire plein de choses. Mais j'ai vraiment aucun regret. Sincèrement, j'ai aucun regret. En plus, ma carrière n'est pas terminée.
Je compte
bien encore battre quelques records, même si c'est vrai que sur piste, je compte pas y revenir tout de suite parce que c'est un sport différent. Chaque entraînement est différent quand tu prépares du marathon ou de la piste du 1500, 3000. C'est vraiment des entraînements qui sont différents. Mais ça a été très, très productif pour moi. Et ouais, j'ai rêvé de faire un petit peu mieux, mais de base, même dans mes rêves, j'aurais pas pensé faire ce que j'ai fait. Donc en vrai, j'ai pas de regrets, je suis très content d'avoir fait ça. Ouais. C'était déjà un bon niveau et il fallait vraiment s'engager beaucoup plus et faire beaucoup plus de concessions pour pouvoir encore franchir un palier. Ouais. Et ça, en fait, j'étais tout simplement pas prêt. J'étais pas prêt à le faire. Ouais, j'étais pas prêt.
T'avais quel âge à ce moment-là?
J'avais 25, 26.
Ok, et du coup, qui est-ce qui va au... Qu'est-ce qui fait les mondiaux ces années-là?
C'était Mayedine Mekissi, Johan Koval.
Ça rigole pas
voilà,
du tout.
Exactement.
Quoi.
Voilà, ça, c'était l'élite français, ouais, bien sûr.
Ouais, il y a du très 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 haut niveau et effectivement, c'est des grands champions. En plus, ils arrivent à durer dans le temps, ce qui est hyper compliqué.
Exactement.
C'est effectivement, je suis d'accord avec toi. Tu vois, pour avoir rencontré du coup beaucoup d'athlètes, on se rend pas compte à quel point sur les sports sur le demi-fond. À quel point les dernières secondes sont tellement difficiles à aller chercher et à quel point il faut se faire mal et c'est difficile de savoir si c'est possible ou si c'est pas possible, quoi.
Exactement.
Tu vois, donc
exactement. Et quand on bat un record, on a l'impression qu'on peut toujours faire mieux, mais en vrai c'est vrai que les secondes elles sont compliquées à aller chercher. Et l'année où je fais 7e au championnat de France élite, c'est Johan Koval qui gagne, donc multiple champion de France, 5e aux Jeux Olympiques si je dis pas de bêtises. 2e c'est Bob Tari,
là aussi,
recordman d'Europe sur 3000 steeps. Et 3e c'est Djillali Bedrani. Ouais. Qui derrière, pareil, va faire une perf 5e au championnat du monde, etc. Et Mayedine Mekissi qui déclare forfait sur la ligne. Je pense qu'il a eu peur de moi. Il était à côté de moi. Normalement, j'étais un peu déçu qu'il soit pas là pour la photo du départ. Mais voilà, enfin voilà, c'était vraiment
c'est
l'élite.
Des légendes, c'est des légendes.
Et courir avec ces mecs-là, c'est juste incroyable. Donc moi, je reste à ma place. Et même si j'ai fait des belles performances, je suis à des années-lumière de ces mecs-là.
Ouais, mais sûr.
Et pourtant, je suis content de mes performances. Donc en fait, voilà, on en revient encore au sujet de tout à l'heure. Voilà, chacun voit son objectif. Et à partir du moment où tu parviens, je pense que t'es satisfait.
C'est déjà un énorme plaisir de je pense aussi de se frotter à ces champions.
Incroyable.
Tu vois. Hier j'étais avec Arnaud Di Pasquale, le joueur de tennis. Je sais pas si ça dit quelque
Bien
chose.
Sûr.
Et tu vois, j'avais l'occasion de lui dire que moi j'avais joué avec quelques grands noms, tu vois, du tennis dans ma jeunesse, que c'est ce que je faisais quand j'étais jeune, tu vois. Et juste même si je me suis pris une rouste, le fait d'avoir fait un match contre ces gens-là, tu vois, ça te rappelle des souvenirs après pour plus tard, quoi. Donc,
Bien sûr.
C'est toujours. Ça fait toujours plaisir, tu
totalement,
vois.
Totalement.
Même le moindre point gagné, on le retient. et c'était qui tes... Là, on a mentionné un peu les grands noms et tout, mais c'était qui tes grandes inspirations dans le sport? Est-ce que il y avait des têtes sportives que t'appréciais particulièrement ou qui t'inspiraient?
Alors,
Ça peut être dans le foot d'ailleurs.
Ouais,
aussi.
Ouais, bah après. je vais pas malheureusement sortir de. Des sentiers battus, mais bien sûr Zidane, voilà, ouais. Tu vois, je te parlais tout à l'heure Coupe du Monde 98, je faisais du foot, 17 ans de foot, moi c'était le foot à 100%, donc j'allais au stade Malherbe regarder les matchs, j'étais trop content, et puis forcément Zidane, l'idole de toute une jeunesse, et même d'une génération et de plusieurs générations même, j'imagine. Donc voilà, c'est vrai que sur le football, c'était voilà, même les Ronaldo, etc. J'étais vraiment vraiment calé football. Après, je commençais à regarder la course à pied. Donc moi, je me souviens de Ronald Pognon, qui faisait du 100 mètres. Donc tu vois, rien à voir avec moi, mais parce que je regardais les Jeux Olympiques, etc. Il y avait Christine Aron. Voilà, c'est une ancienne génération, mais c'était pour moi des champions. Il y avait Hicham El Guerrouj, bien évidemment.
Ouais.
Et surtout avec Bekele. Ça, c'était les mecs.
C'est la super baston.
Voilà, là, c'était juste des moments incroyables. Et ça, c'est des gens qui m'ont fait rêver. Puis bon, voilà. Après, j'ai grandi, bien sûr. Maintenant, après, il y a eu les Bolt, etc. Des gens qui m'ont fait rêver, mais j'étais déjà dedans. Ouais. Mais quand j'étais plus jeune, c'est vrai que ces gens-là, me faisaient pas mal rêver. Après, c'est vrai que je regardais tellement, tous les sports, tout le temps, que je regardais le tennis, j'étais à fond derrière André Agassi, Pete Sampras, j'adorais. En fait, je connaissais tous les mecs de tous les sports, tellement je m'intéressais à tout. Donc, il n'y avait pas une personne vraiment que j'adorais, mais s'il y avait un poster dans ma chambre, c'était celui de Zidane. Voilà, c'est clair.
Faut le dire.
Voilà, non, mais.
Il faut remettre la mise.
Voilà, exactement. Faut le dire. Désolé. Je vais pas vous faire rêver, mais voilà, c'est Zidane, hein, on est tous pareils.
Ah, mais ça, on est complètement d'accord. On est complètement d'accord. Je vais peut-être faire un petit grand écart un peu dans le temps, mais comme je disais, tu vois, t'as fait une finale à Koh Lanta, et je voudrais savoir justement qu'est-ce qui se passe entre le moment où tu fais cette course incroyable, du coup tu fais l'année d'après tu fais les finales élites, tu vois, sur 3000 steeples, et la volonté de t'inscrire justement à un jeu télévisé. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Pourquoi tu fais ça?
En fait, ça, c'est vraiment une histoire, on va dire, un peu parallèle. Ça veut dire que même quand je faisais du foot à l'époque, je me souviens des premières saisons de Koh-Lanta. Moi, j'étais mineur et j'avais regardé ça et je me dis, en fait, je suis tellement compète, tellement sportif, tellement joueur. J'adore jouer, j'adore ça. N'importe quel jeu, hein. Ça peut être un jeu de société, jouer avec mes potes, ça peut être jouer dans le sport. Enfin, que moi, je les voyais se faire des épreuves à la télé. Et je me dis, mais ça doit être génial de faire ça. Donc, j'avais postulé la première fois à 18 ans.
Okay.
Et j'ai postulé plusieurs fois. Hein. Et moi, j'ai toujours dit, mais c'est incroyable. Parce que d'ailleurs, dans le générique de mon Koh-Lanta, donc Koh-Lanta les quatre terres, la première phrase qu'on entend, voix off, c'est moi, et je dis, j'ai toujours dit, un jour je ferai Koh-Lanta, un jour je ferai Koh-Lanta. Et en fait, c'est vrai, je sais pas comment t'expliquer, c'est que j'ai toujours dit aux gens, mais moi, un jour je ferai Koh-Lanta, sûrement en ironisant la chose. Tu vois, bien sûr que tu pouvais pas prévoir faire Koh-Lanta, il y a 40 000 personnes qui postulent tous les ans pour faire partie, c'est juste incroyable, faut avoir le coup de pouce du destin, puis derrière, faut réussir à se vendre et avoir une personnalité, je pense. Enfin, j'imagine un minimum, je sais pas pourquoi ils m'ont pris moi, mais voilà, c'est qu'il y avait quelque chose qui leur plaisait chez moi. Et voilà, j'ai toujours dit ça, je ferai Koh-Lanta, et j'ai grandi et je continuais de regarder Koh-Lanta, pas tous les ans, mais je regardais, et puis je postulais de temps en temps, une fois par an, une fois tous les 3 ans, je repostulais. Et puis là, je sais pas, 30 ans, j'ai repostulé pour la 5e fois et j'ai rien changé en fait à ma... Je croyais même que je l'ai mis dans ma lettre de motivation. Je dis, ma lettre de motivation est la même qu'il y a 12 ans, sauf que j'ai plus le même âge et que depuis, c'est quand même passé quelque chose. Et c'était sincère. En fait, ma lettre de motivation, elle a pas changé. Mais ça a toujours été une motivation profonde de faire cette aventure pour l'aventure humaine, pour le côté sportif et compète. Moi, c'est vraiment ce qui me plaisait. Au casting, c'est ce que je vendais. J'y allais pour gagner un maximum d'épreuves. J'avais rien à prouver à personne. Tant mieux. Et je leur disais, moi, ma vie, elle est super. J'adore ma vie. Donc, je fais pas ça pour quelqu'un. Je fais pas ça pour prouver des choses juste pour moi et kiffer et tout arracher. Vraiment. Et voilà, souvent c'est vrai qu'on me dit, ouais, il faut avoir eu un drame dans sa vie pour faire Koh-Lanta, pour qu'il joue sur le côté drama, etc. Ça peut arriver, bien sûr. Il y en a qui vont pour ces motivations là moi, c'était pas ma motivation, donc je vais pas dire ça, alors que et voilà, ça a marché quand même pour moi. Donc non, c'était vraiment une motivation profonde, comme quoi il faut pas lâcher au premier coup, puisque j'ai postulé 5 fois avant d'être pris. Donc
et peut-être sans dévoiler tous les secrets de l'émission, et il y a peut-être des choses qu'il faut pas dire, mais
il y a aucun secret,
mais quelles sont un peu les grandes étapes, parce que je t'avoue que moi, je regardais Koh-Lanta quand j'étais petit, et Et depuis un petit moment, je regarde plus du tout la télé. Tu vois, donc j'avais complètement coupé avec cette émission. Et en préparant l'interview, tu vois, avec toi, je me suis dit tiens, ça pourrait être sympa. C'est quand même un sacré défi. C'est pas de la gnognotte, tu vois. Maintenant, les gens qui gagnent, les gens qui vont en finale, sont tous des sportifs assez aguerris, ou en tout cas des gens qui ont une bonne activité sportive. Alors il y a toujours des exceptions, tu vois. Mais les sportifs sont quand même bien représentés. Tu vois, quand on voit des Claude, quand on voit des personnes comme toi, tu vois, on peut se dire il y a quand même un certain niveau physique, donc ça peut être sympa. Et puis moi je me vois un peu aventurier et tout. Du coup je serais curieux de savoir ouais quelles peuvent être un peu les différentes étapes qu'il y a, combien d'entretiens, grosso modo. On n'est pas obligé de rentrer dans les détails, mais juste un peu ça pourrait être sympa.
Ouais. Alors juste avant de te répondre, je reviens juste sur ce que t'as dit. En vrai, c'est vraiment un a priori qu'ont les gens de penser qu'il faut être sportif pour faire Koh-Lanta.
Ouais.
Il y a des sportifs comme chaque année qui représentent une population. Mais sincèrement, c'est pas parce que on voit dans le portrait quelqu'un qui dit moi je fais du sport et qui va une fois à la salle dans la semaine que il est considéré comme sportif. Et moi j'ai vu des gens pas sportifs gagner des épreuves. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, on a tellement faim que même le sportif de haut niveau, et j'en ai fait les frais, il souffre plus de la nourriture que les autres.
Ouais.
Et en fait, on n'est que l'ombre de nous-mêmes. Et quelqu'un qui arrive en surpoids, donc qui est à la base pas du tout sportif, qui perd du poids, se retrouve avec beaucoup plus de conditions physiques que toi. Et je suis pas sûr que Usain Bolt, sur un jeu de puzzle, il soit meilleur que Tata Janine, tu vois.
Ouais, ouais,
vraiment.
C'est vrai.
Exactement. Et Koh-Lanta, c'est vrai qu'on a toujours à dire, moi, je le fais pas parce que je suis pas assez sportif. Et je t'assure qu'il y a des gens qui sont pas sportifs et qui vont aller très loin. Koh-Lanta, c'est quand même 98% de social. Si socialement t'es bon, t'iras loin dans le jeu. Ouais. Et effectivement, ceux qui ressortent, on va dire, du programme qui explose, ça va être les Claude qui gagnent beaucoup et ceux qui, parce que tu t'assimiles à ces personnes-là.
Ouais,
parce
ouais,
que tu
vrai.
Les aimes, parce que toi tu veux le compétiteur, le sportif, etc. Mais je t'assure que sur tous les aventuriers qui sont choisis, il faut pas forcément être sportif, faut juste être bon socialement et très fort mentalement. Ouais. Mais vraiment, Koh-Lanta c'est une émission pour tous. Et vraiment, je le dis, et j'ai pas un programme à vendre, hein, moi je m'en moque, hein, mais c'est parce que je l'ai vu comme ça.
Okay.
Et du coup, comment ça se passe Koh-Lanta? Donc moi j'ai postulé au mois de mai.
Ouais.
Ok. J'ai eu un coup de téléphone la veille des interclubs. Donc pour ceux qui font de l'athlétisme, ils vont reconnaître le mois de mai, etc. Voilà, les interclubs, c'est tu cours pour ton club et tu ramènes des points pour ton club. Et premier entretien téléphonique et après un entretien, un casting. T'es sur une croix et en fait ils disent juste présente-toi. Voilà, okay. Présente-toi. Y a pas, ça va pas être un test de culture G, etc. Donc tu te présentes et le mec en face de toi, il te pose 2-3 questions, il rebondit sur ce que tu dis. Et voilà, c'est juste en fait vendre sa personnalité, vendre sa vie, expliquer qui tu es et qu'ils arrivent à voilà, il faut qu'ils arrivent à voir un potentiel en toi, mais peu importe le potentiel. Tu vas pas dire que t'es un grand fêtard si en fait tous les soirs tu te couches à 20h et que t'as une petite vie tranquille rangée. Tu vas pas dire que t'es un grand sportif alors que tu y es pas. Ils veulent pas un stéréotype, ils veulent quelqu'un de vrai. Peu importe ce que t'es. Moi, je vais pas dire, moi, je suis très timide et pas sportif, alors qu'en fait, j'adore parler avec tout le monde, je suis fédérateur et très sportif.
Ouais.
Mais par contre, quelqu'un qui est très timide, qui a du mal à se mélanger, etc., eh ben, il va avoir, ce côté-là, d'attachant, où ils vont se dire, ah, ça peut être bien de le voir en groupe, comment il va s'adapter, etc. Donc, en fait, faut vraiment vendre sa personnalité. Et en fait, les castings, c'est que ça. Présente-toi. Et après, ils te rappellent, tu repasses un casting avec des nouvelles personnes en face de toi, présente-toi. Et à chaque fois, t'as 15 minutes.
Okay.
Voilà. Jusqu'à aux tests médicaux, tests d'effort pour voir si t'es en bonne santé. T'as pas, ils viennent pas voir si tu fais 35 minutes d'e-born, ils s'en moquent.
Okay.
Et puis après, ils t'appellent et ils te disent tu pars. Mais bon, il y a 5 mois entre le début et la fin.
Ouais.
Donc c'est déjà une aventure en soi de passer le casting. Je peux te dire que déjà, tu perds du poids parce que tu te dis, oh, tu passes, ils te disent, bon, peut-être on vous rappelle. T'as pas de nouvelles. Tu te dis, bon, bah, c'est mort. Coup de téléphone. Ouais, salut Dorian. Bon, l'aventure, elle continue. Tu vas au prochain casting. Oh, c'est des chocs d'adrénaline, tout ça. Et c'est des moments. Bah d'ailleurs, moi j'étais en plein dans ma saison, j'étais affûté, j'étais prêt, etc. Et en fait, en passant les castings, d'un coup, j'arrivais plus du tout à courir parce que mon esprit était vraiment à Koh-Lanta. Je sentais qu'il était en train de se passer quelque chose, que je sentais que c'était le moment et j'arrivais plus à aller courir. Quand j'arrivais au départ d'une course, j'avais qu'une envie, c'est d'être sur Koh-Lanta et j'avais plus les crocs pour perfer. Et au bout d'un moment, j'ai dit à mon coach, écoute, j'arrête ma saison parce qu'en fait, ça sert à rien, mon esprit est ailleurs et je sens qu'il va se passer quelque chose et
Et il s'est passé quelque chose. Et comment ça se passe le début, tu vois, j'imagine, bon, tu réalises qu'il va y avoir un avant, un après, tu réalises que ça va être dur, mais t'y vas avec quel état d'esprit, tu vois, justement sur cette île, j'imagine qu'ils vous rassemblent avant, vous devez prendre l'avion ensemble, vous arrivez sur place, vous êtes sûrement un peu briefé quand même. Comment ça se passe un petit peu le setup si on se met derrière les décors?
Alors je vais essayer de
faire ça
synthétique. Parce qu'en vrai il y a tellement de choses, je pourrais vous raconter des heures tellement c'est incroyable. En fait,
on fera un deuxième épisode dans un an.
Grave, on voyage par petits groupes. Nous, on était un groupe de 4. Au final, nous, c'était les 4 terres, 4 équipes pour représenter sa région. D'ailleurs, merci pour la mousse orange. la mousse orange du micro pour représenter l'Ouest, qui était mon équipe. Et donc, du coup, on était 4 et on savait pas, bien sûr, qu'en fait, il y en avait un dans chaque équipe. Mais nous, on savait pas du tout qu'il y allait avoir 4 équipes. On voyage, on sait pas où on va. On est dans l'avion, on est dispatché dans l'avion. Donc, on n'a pas trop le droit de se parler. Les 4, bien sûr qu'on parle quand même un petit peu, mais on n'a pas trop le droit de faire connaissance.
Okay.
Et pas de s'échanger des choses perso, etc. Et donc, on prend l'avion, un deuxième avion, on arrive, machin, au Fidji, un bateau, un pick-up, un autre bateau, vraiment. Là, nous, on est arrivé sur un petit village fidjien. Donc, moi, je logeais que avec un autre mec de mon aventure dans une petite cabane.
Okay.
On voyageait avec deux autres filles qui étaient dans une autre petite cabane à côté. Et en fait, on mangeait tous les quatre, on faisait tous les quatre ensemble.
Et vous n'avez pas trop le droit de parler, quoi.
Mais on n'a pas trop le droit de parler. Alors forcément qu'il y a des échanges quand même, mais on n'a pas trop le droit de parler du jeu, de notre vie perso, etc. Et en fait, on voit que dans le village, tout au bout, là-bas, il y a un autre petit groupe de quatre. Et là-bas, un autre petit groupe de quatre. Et en fait, il y avait ça sur plusieurs îles. Donc, voilà. Et donc là, le jeu... On est arrivé le samedi, ils nous ont dit le jeu commence mardi. Donc il y a eu un petit brief où on était assis sur des chaises, je me souviens, et là on était 10 je crois.
Ouais.
12, on était 12. 12 aventuriers mais pas le droit de se parler, rien du tout. Donc on arrive, bonjour. On sait que ça va être des gens avec qui on va faire l'aventure mais on se connaît pas, on se voit pour la première fois, on n'a pas le droit de se parler. Donc là il y a brief de la production au niveau sécurité etc. qui a un talkie-walkie, nous apprennent à l'utiliser si on a des problèmes voilà au moment du jeu. On repart et quand le jeu commence, là ça part, on arrive sur la petite île, la prod nous dit bon, vous allez vous mettre à courir jusqu'ici. Là vous allez voir Denis. Là il y a une ficelle donc vous vous mettez pas sur la deuxième, vous mettez sur la troisième, vous. Donc nous on arrive et là du coup on voit qu'il y a déjà 3 équipes de mise. Nous on est arrivé, boum, et là direct Denis il dit bonjour à tous. Tu dis ouais, c'est ouf, ça y est, tu vois, il y a 40 000 caméras en face de toi. Tu voyais un petit jeu parce qu'on a commencé direct par un jeu de confort. Et là tu dis ouais, ça y est. Donc là t'as le grand smile et je me souviens un truc qui est quand même fort, c'est bonjour à tous, bienvenue dans Koh Lanta, les quatre terres. Là vous êtes par équipe, il y a quelque chose qui vous rapproche, c'est les régions. Donc là on apprend que c'est Koh Lanta, les quatre terres, les régions, etc. Et là, direct, le mec, Denis, on se connaît pas. Et il dit, vous, Dorian, et je lui dis, c'est ouf, il connaît mon prénom, tu vois. Enfin, c'est bizarre, il s'adresse à moi comme si on se connaissait, alors que c'est vraiment la première fois qu'on se parle. Et c'est face caméra. Et il dit, bah, vous, Dorian, vous êtes fier de votre Normandie. Enfin, et là, ça y est, t'es dans le jeu, quoi. Tu commences, premier jeu, après, tu rentres sur ton île, le jeu est parti, et voilà, c'est.
Ouais, ça va à 100 à l'heure, en fait.
Ouais, c'est ouf, c'est ouf.
Ce que je comprends, c'est que, ouais, tout est hyper bien ficelé maintenant, et que, on vous enchaîne, et puis on vous met aussi dans un espèce de contexte pour qu'il y ait un peu de stress, un peu d'émotion. Ouais. Et t'as mentionné que tu vois, t'as eu des mots assez forts tout à l'heure. Tu t'as dit ouais, on n'est que l'ombre de soi-même parce qu'on a tous très faim physiquement et mentalement. C'est dur, tu vois. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi? Et justement, est-ce que c'est vraiment ce sentiment de faim? Tu vois, moi, je pensais aussi. Au sommeil parce que vous dormez pas bien. Il y avait beaucoup de soleil sur ton édition.
Non, les premiers jours c'était que de la pluie. Ouais. On a pris cher,
ça fatigue, tu vois,
c'est dur.
De la pluie, c'est ça te crève quoi, ton organisme, il a besoin d'énergie pour produire de la chaleur. Tu le sens vraiment physiquement, c'est quelque chose de difficile.
Et puis en plus, c'est marrant parce que la question que tout le monde se pose mais qu'on se pose aussi, on se dit ouais, est-ce que quand il pleut trop, à un moment donné, il te donne un petit parapluie en off, est-ce qu'il te ramène une veste, est-ce qu'il te ramène un peu à manger, tu vois, enfin, tu sais pas, tu te doutes que non, mais tu sais pas comment ça se passe. Et en fait, ouais, je me souviens, on est arrivé, jour 2, on n'avait pas encore fini la cabane, etc., il s'est mis à pleuvoir pendant 15 heures, on a passé la nuit sous la pluie, mais quand je te dis sous la pluie, c'est, faut imaginer, t'es là, t'es assis, on est sur le sable qui est trempé, et tu te fais mais tremper la tête. Mmh. Nous on avait encore des forces, donc moi je me souviens, pour me réchauffer, je faisais des allers-retours en marchant sur la plage. On se connaissait pas il y a 24 heures avec les 5 de mon équipe, on se prenait dans les bras mais comme si c'était ta ton enfant, tu vois, à se frotter limite, à se faire des bisous partout dans le cou pour se tenir chaud, tu vois, pour échanger vraiment nos chaleurs corporelles et tout. C'était incroyable et en fait ça faisait deux jours qu'on était là. Le matin se réveille, tout est trempé, il y a pas le droit aux vêtements techniques sur Koh-Lanta, on se demande toujours pourquoi tu prends pas une petite veste en Gore-Tex, un petit kawaii que toi tu mets pour courir quand il pleut. Il y a le droit facile à rien, c'est que du coton. Donc toi ta veste H&M à 17€ si tu veux, elle est trempée, elle met 3 heures à sécher plein soleil. Et tout ça, c'est très très compliqué à gérer. Ouais. Maintenant, tout ça, en fait, ça devient secondaire quand t'as faim. Ouais. Moi, c'est la nourriture. C'est vraiment, c'est obsessionnel. Tu penses qu'à ça tout le temps, 24 heures sur 24, t'en rêves. C'est ouais. Vraiment dur. Tu parles que de ça. C'est vraiment, t'essayes. Les seuls moments où t'y penses pas, c'est quand il y a des épreuves. Donc, t'es très très content quand il y a des épreuves. Sauf que les épreuves, c'est 2 heures par jour, 2 jours sur 3.
Ouais.
Donc, t'imagines sur 72 heures, c'est 4 heures. Et le reste du temps, tu t'ennuies à mourir et à penser à la nourriture. Ouais. Et il faut tenir 40 jours. Ouais. C'est inimaginable la difficulté de cette aventure. Vraiment, ouais. Même moi aujourd'hui, j'en parle, j'ai oublié à quel point c'était dur. Mais quand j'étais là-bas, je me disais, c'est juste impossible. Comment on va faire pour terminer? T'es au jour 8, t'en peux déjà plus. Mais le corps humain est juste incroyable, messieurs, dames. Et franchement, vous êtes... très très loin d'optimiser ce que votre corps est capable de faire, sachez-le.
Ouais, mais c'est sûr, tu vois, le corps humain, elle est la plus belle des machines, tu vois, et on
une machine
et
de
on
guerre.
Peut tourner sans essence pendant très 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 longtemps.
C'est ça.
On s'en rend pas compte.
Non.
Tu parles effectivement de la faim. Qu'est-ce qui influence enfin quelle est la plus grosse influence sur ton comportement? Tu deviens plus sensible, plus irritable aussi, ouais. Peut-être, tu vois, c'est un peu ce qu'on peut imaginer, mais est-ce que t'as découvert, tu vois, moi ce qui m'intéresse, c'est est-ce que t'as découvert des choses sur toi, des comportements que t'avais jamais eu, ou ouais, une version de toi-même que tu connaissais pas, quoi?
Le comportement le plus difficile à accepter pour moi, c'est par rapport à la nourriture,
ouais,
d'avoir des pensées négatives envers des gens parce que je les voyais prendre 4 grains de riz de plus que moi, tu vois. C'est horrible cette sensation. C'est-à-dire qu'on prenait des coquillages de riz, tu vois, et au début, le temps de se caler, on n'avait pas tous le même coquillage, et j'en voyais qu'avec des coquillages plus gros. Donc je sais qu'ils mangent peut-être une bouchée de riz de plus que moi. Et genre, j'avais envie de le rentrer dedans, tu vois, parce que il mangeait 3 grains de riz de plus que moi, alors qu'en vrai, je suis pas du tout égoïste, j'aime le partage, etc. Et ce sentiment, tellement t'as faim, tu vois, il est dur à accepter, en fait, de se dire, le mec, je le regarde mal et j'ai envie de lui rentrer dedans parce qu'il prend 3 grains de riz de plus que moi.
Ouais.
C'est un sentiment qui est assez difficile à accepter, et ouais, parce qu'on sait, on n'imagine pas ce que c'est que la faim, en fait. Et tant mieux. Heureusement, ouais, personne connaît la faim, vraiment.
c'est pas
parce que t'as loupé ton repas de midi que t'as faim, en fait.
Ouais.
Et ça, c'est très dur. Après, moi, sur le côté irritable, ça va, je suis quelqu'un d'assez zen. Bien sûr, je suis fatigué, donc beaucoup moins, j'avais du mal à accepter d'être faible. Tu vois, quand tu te lèves juste pour aller.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Et puis c'est que t'as la tête qui tourne, que t'as la flemme juste d'aller chercher de l'eau qui est à 200 mètres, des choses comme ça. C'est difficile d'être flemmard, en fait,
ouais,
d'être mou. Mais moi j'avais besoin des autres pour survivre, parce que tout seul tu pètes un câble au bout d'un moment, et quand c'est dur pour toi et pour les autres, et bah c'est quand même beaucoup plus facile d'avancer avec tes alliés, quoi.
Ouais, bah je peux comprendre, ouais, clairement. Et peut-être pour moi qui suis pas à l'émission, là en l'espace de 40 jours, enfin t'es resté combien de temps exactement?
39 jours.
Ouais,
j'ai perdu 39 jours après-midi, et c'était 40e jour, j'ai fait épreuve d'orientation.
Dur, mais sur 39 jours, tu te souviens en moyenne ce que tu mangeais par jour?
Bah il y a vraiment des jours, les premiers jours notamment, où je mangeais rien. Mais genre tu manges une coco.
OK.
De la coco, puisque t'as pas besoin du feu pour le faire. Donc nous on a fait le feu que seulement on a eu le feu au bout de 13 jours. Donc déjà les 13 premiers jours, tu peux pas manger de riz. On a mangé des crabes crus. On a mangé sur une épreuve de confort qu'on a gagnée, donc des frites. Je pense que c'était les frites les plus dégueulasses de toute ma vie et pourtant c'était les meilleures. et du coup, pour pas qu'il y ait de d'animosité, le but c'est qu'on prenait une frite chacun notre tour, parce que sinon il y en a un qui allait peut-être en manger deux pendant que l'autre allait en manger une. Parce que moi en fait mes frites, je les mangeais une frite, ça me faisait minute, tu vois. Non, pas du tout. J'y allais vraiment doucement, vraiment petit bout par petit bout, pour vraiment avoir la sensation de mâcher, alors qu'il y en a les qui les mangeaient plus vite. Donc du coup, moi j'en voulais le même nombre. Donc quand eux ils avaient fini de manger, moi ils m'en restaient et j'étais trop content de me dire que je mangeais et qu'ils avaient terminé, tu vois. Donc mais vraiment il y a vraiment des jours où on mange rien. Après il y a des moments où tu peux gagner une épreuve de confort, donc tu vas manger, tu te rends compte que en fait dès que tu manges au final ton estomac il est tout petit et qu'en fait tu as très vite plus faim quoi et tu as mal au ventre.
OK.
Mais non, on mange rien. En vrai, c'est ce qu'il y a de plus dur. C'est horrible.
Et c'est dur le retour un peu à la vraie vie. Justement là pour l'estomac de se remettre avec un rythme un peu plus normal, tu vois, moi j'ai fait des séances de jeûne, tu vois, sur plusieurs jours et c'est vrai que tu sais, on te dit toujours faut revenir doucement avec des jus et tout, mais quand t'as 3 jours c'est rien à côté de toi, tu vois, mais je sais que moi au 3 jours déjà j'avais des alus, j'avais envie de manger un peu dans tous les sens, quoi qu'au bout du 3e jour ça va, tu vois, tu commences un peu
à t'habituer
Mais tu vois, oui, si on avait mis un énorme plat devant moi, je l'aurais englouti, quoi. Et je me serais sûrement fait mal au ventre, quoi. Mais...
Ouais, mais c'est ça, la consigne, c'est de manger plusieurs fois par jour, mais des petites quantités. Ouais. Ce que absolument personne ne fait. Tu te jettes sur la nourriture, tu dévores. Ouais. J'allais au resto, je mangeais 2-3 plats, ouais. Mais des trucs de fou. Je mangeais jusqu'à ne plus en pouvoir. Brûlure d'estomac, crise de foie. Ouais. Vraiment à avoir mal au ventre, avoir le ventre super gonflé. Et recommencer une fois que ça va mieux, quoi. Donc, non, très compliqué. J'ai fait une hépatite C en rentrant. J'avais le foie d'un alcoolique, des gamma GT, etc., qui avaient explosé. Donc, ah ouais. Vraiment le foie d'un alcoolique, alors que j'avais pas bu depuis au moins 2 mois. Donc, ouais. Donc, très, très, très compliqué le retour. Les gens parlent fort, la vie va vite, il y a des écrans. Les gens, ils sont tous sur leur téléphone. Ils finissent pas leur assiette. Voilà, c'est des choses où tu te dis, ah ouais, c'est vrai, c'est comme ça, quoi. C'est vraiment compliqué. C'est dur de s'imaginer. Mais il faut le vivre pour le comprendre. C'est très compliqué de revenir revenir à la vie et de voir qu'en fait on a tout ce qu'on veut et on profite même pas assez des gens en soi et de tout ce que la vie a à nous offrir.
Mais justement, tu vois, c'est sur l'après. Qu'est-ce que tu l'as déjà un peu évoqué, tu vois, ça t'a fait un peu relativiser sur le monde. Mais en quoi ça a bonifié ton comportement et ta façon de voir la vie et de la croquer à pleines dents?
En réalité, je pense pas avoir changé. Alors j'ai un peu changé de vie, mais je veux dire j'ai pas changé ni ma mentalité, je suis toujours le même qu'avant Koh Lanta. Ça a pas, on va dire, changé ma vie directement, dans le sens où bon, j'ai toujours les mêmes potes, j'ai toujours la même compagne, j'ai eu un enfant depuis, enfin voilà, tout est cool. J'ai un rapport quand même assez différent avec la nourriture maintenant. Après, chasse le naturel, il revient au galop, les écrans, les téléphones, etc. Bien sûr que je suis comme tout le monde beaucoup trop dessus. Mais à proprement parler, j'ai pas changé de vie. Maintenant, je savais déjà, j'avais déjà fait des voyages auparavant et j'avais déjà pris conscience de la chance qu'on avait. Et je me suis toujours dit qu'on avait énormément de chance de pas avoir faim, d'avoir tout ce qu'on voulait, de dormir dans un lit, etc. Pour avoir voyagé un peu au Cameroun, au Pérou, au Brésil. Voilà, j'ai déjà vu ça. Maintenant, effectivement, après, par contre, ça a été un accélérateur de vie, Koh Lanta, dans le sens où je suis avec toi aujourd'hui et que peut-être que si j'avais pas fait Koh Lanta, je serais sûrement pas là, quoi. Donc, ouais, par exemple.
Mais qui sait, moi, je dis.
Bien sûr. Mais...
Tu sais, on ne sait pas de quoi la vie, ce que la vie.
Exactement.
Nous propose,
mais en tout cas, c'est sûr que j'aurais sûrement pas écrit un livre. Ça, c'est incroyable.
Ok, bah tu vas me raconter juste après. Il y a d'autres choses, effectivement. Tu vois, il y a effectivement une part de célébrité. J'imagine que y a peut-être aussi des marques qui commencent à t'approcher parce que les réseaux sociaux explosent, sonnent un peu dans tous les sens. Il y a certains, tu vois, membres de télé-réalité qui disent qu'ils l'ont pas très très bien vécu, tu vois, cette espèce de sortie de l'anonymat, tu vois, où personne te connaît, ou enfin, tu vois, tes amis, ton cercle te connaît, effectivement. T'es dans une autre dimension parce que t'as eu des millions de spectateurs, de téléspectateurs. Toi, comment tu l'as vécu un peu cette transition? Tu vois, j'ai l'impression que tu le vis bien et que tu croques la vie à pleines dents et que c'est plutôt cool et que même t'en profites pour te lancer des défis encore plus chouettes. Mais est-ce que il y a eu des moments un peu moins bien ou au contraire, tu vois, des moments géniaux, quoi, depuis?
Alors moi je le vis très très bien, vraiment. Hein, alors moi j'avais une petite notoriété sportive, on va dire, au niveau local et national par rapport au sport, mais vraiment légère, on va dire, par rapport à ce qui m'attendait. J'étais pas prêt à ça. Il faut savoir qu'en fait Koh-Lanta, il y a 5 ans en arrière, c'était énormément diffusé, mais les gens de Koh-Lanta étaient pas du tout suivis sur les réseaux. Et une fois que Koh-Lanta était terminé, ils reprenaient leur vie et personne vivait de cette image, pas comme dans la télé-réalité. Enfin, ça reste une télé-réalité, hein, attention, mais pur et dur, je parle des chaînes du câble, par exemple, où là, c'est vraiment directement des influenceurs pur et dur. Koh-Lanta, en fait, les gens qui faisaient ça, pas du tout.
Inconnus, ouais.
Et essayez de me dire, dans les 20 premiers, 30, enfin 15 premiers gagnants de Koh-Lanta, qui on a vécu derrière, qui a réussi à vivre de sa notoriété, alors qu'il y avait beaucoup plus de téléspectateurs même avant, puisqu'il n'y avait pas le câble. Mais il y a quelque chose qui a tout changé, qui s'appelle le Covid. Et pendant le Covid, il y a eu une saison de Koh-Lanta, il y avait plus de sport, il y avait plus rien à la télé, plus rien passé, et il y a eu Koh-Lanta, et il y a eu Claude, le héros de tout un peuple pendant le Covid, puisque tout le monde s'est mis à regarder, les audiences ont explosé. Lui était vraiment sportif et a vraiment aidé le programme sur le moment là à exploser. Et c'est de là qu'est arrivée la tendance sur les réseaux sociaux. Et donc, depuis ce Koh-Lanta-là, où beaucoup ont été suivis sur les réseaux sociaux, moi, je suis arrivé derrière. Et d'ailleurs, l'histoire, elle est incroyable. C'est que les gens se rendent pas compte, mais moi, je tourne en 2019.
Ouais.
Fin 2019, je rentre. On nous dit, normalement, c'est 3 mois après. Je rentre en me disant, le 5 décembre, je rentre en me disant, au mois de mars, je passe à la télé. Et là, ils nous disent, le Koh-Lanta qui devait passer en septembre, il est pas passé, il passe en mars. Vous, vous attendez le mois d'août.
D'accord.
Donc ça veut dire que je regarde Koh-Lanta à la télé avec des gens qui sont même pas au courant que j'ai fait Koh-Lanta, tu vois, et je regarde en disant que moi j'ai fait Koh-Lanta et que personne ne sait. Horrible, vraiment c'était le très très long.
Ok.
Donc voilà, voilà, c'était un peu pour le côté réseau. Et donc en fait, moi tout ça pour dire que quand j'ai fait Koh-Lanta, je m'attendais absolument pas ce côté médiatique. Alors je savais que j'allais être connu dans la rue, forcément un petit peu au début en tout cas, mais je m'attendais pas à pouvoir vivre derrière de cette notoriété. Et en plus moi il y avait quand même le confinement aussi sur mon Koh-Lanta, donc j'ai pas pu en profiter directement, je pouvais pas sortir pour voir un peu comment ça se passait dehors. Donc j'étais très très déçu sur le moment, et en fait je pense que ça a été au final un mal pour un bien, puisque vu que c'était confinement, les gens pouvaient pas sortir, mais du coup regarder la télé, donc m'ont suivi aussi sur les réseaux. Et je pense que c'est pour ça que les gens du Covid ont eu une communauté plus importante, parce qu'on a été plus suivis.
Okay.
Et donc aujourd'hui, en fait, bah voilà, je récolte un peu ce qui s'est passé au moment du confinement.
Ouais.
Et du coup, pour répondre à ta question, désolé, je parle beaucoup, faut me le dire.
Ah, mais vas-y,
il y a plein de choses à raconter, c'est incroyable.
Je te l'ai dit, faut être bavard ici.
Non, en vrai, moi, sincèrement, je le vis très bien, et c'est surtout que grâce à ça, j'ai des opportunités qui sont juste incroyables, qui m'arrivent, voilà, bah on va en parler, mais sur mes dernières courses et celles que je prépare aussi, c'est des choses que j'aurais jamais pensé faire, mais parce que voilà, les opportunités, les marques, etc. Moi je suis contrôleur à la SNCF de base, donc là je me suis mis à dispo parce que du coup j'arrive à vivre du coaching, j'arrive à vivre de mon image, et à côté de ça du coup j'ai eu une petite fille il y a 16 mois et du coup j'arrive à en profiter aussi. Donc moi je m'éclate, et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai la chance de continuer. Ça veut dire que moi, ça fait 2 ans.
Ouais.
Et là où tout le monde commence à retomber un peu dans l'anonymat et plus de contrat, moi, ça continue parce que je pense que les gens voient que je m'éclate et que je kiffe. Et que du coup, c'est naturel, en fait. C'est pas, c'est juste ouf tout ce qui m'arrive, en fait. C'est top. Et je remercie, en fait, tous les gens tout le temps je trouve ça dingue, en fait. C'est ouf.
Mais en plus, il y a un peu, je trouve que, enfin, justement, tout à l'heure, tu me disais, ouais, pour faire Koh-Lanta, faut pas forcément être sportif, mais c'est vrai que les sportifs que j'ai en tête, tu vois, ont tous bien rebondi, tu vois, justement parce que il y a eu, ils ont transformé juste ce côté épreuve difficile qu'ils ont mêlé avec leur passé sportif, et du coup, je pense que dans la tête des gens, il se passe aussi quelque chose, tu vois, de puissant, tu vois.
Donc, en fait, tu vois, même c'est ce que je te disais au début quand on commence le sport, etc. Je suis vraiment persuadé, mais enfin, je le sais puisque en fait, je le sais parce que ça a été le cas pour moi, mais le sport, je pense que c'est vraiment l'école de la vie. Et en fait, les valeurs que tu diffuses quand tu fais du sport, tu vois, que ça soit le dépassement de soi, le courage, le respect, etc., c'est des choses dans la vie de tous les jours que tu retrouves et que les gens ont envie de voir.
Ouais.
Et quand tu transpires ce mode de vie qui est le sport, l'école de la vie, etc., eh ben, il y a une accroche. Il se passe quelque chose. Et tu vois tout de suite que c'est un atome crochu. Et d'ailleurs, dans le livre, au début, je dis directement que l'athlétisme, la course à pied, c'est un mode de vie, en fait. Ouais. Parce que tous ceux qui courent, tous ceux qui font du sport, en fait, dès que t'as ce point en commun, direct, tu sais que ça va matcher, en fait. Tu vois, c'est incroyable parce que peu importe le sport, parce que à partir du moment où tu fais du sport, tu partages les mêmes valeurs. Et vu que c'est des valeurs qui sont importantes dans la vie de tous les jours, tu sais que tu vas t'entendre avec cette personne.
Ouais, c'est vrai.
C'est incroyable. Tu regardes, c'est tout le temps ça. Et c'est ça qui est incroyable dans le sport.
Ouais, il y a des valeurs communes qui, à tous les sports.
Et c'est pas juste des belles paroles, en fait. C'est réel. C'est pas des belles paroles. C'est vraiment réel, ça.
Ouais, bah, je suis bien d'accord avec toi. Et c'est pour ça que Extraterrien plaît et que les invités comme toi, tu vois, ça fait toujours, plaisir à entendre de se rappeler aussi, tu vois, ces choses-là.
Ouais, c'est clair.
Et c'est cool. Et du coup, depuis, comme tu l'as mentionné, tu t'es lancé des gros défis. Il y a eu le marathon des sables. Mm-hmm. Là, t'as fait un gros trail à Chamonix, une petite course de quartier la semaine dernière. Il y a 2 semaines d'ailleurs, ouais, 2 semaines. Quel a été un peu le défi le plus dur qu'est-ce que tu viens chercher sur ces défis?
Alors en fait, c'est vrai que pour retracer, Koh-Lanta est diffusé, du coup ma vie change un petit peu, je mets un peu la course à pied de côté parce que il se passe beaucoup de choses et j'ai envie de profiter de tout ce qui m'arrive. Ouais. Donc
il se passe quoi? C'est des collabs.
Ouais, beaucoup de collabs, beaucoup d'invitations sur des événements, des choses comme ça et tellement de choses que t'as moins de temps pour t'entraîner, t'as aussi moins envie de t'entraîner. Donc du coup t'es moins performant, donc t'as moins envie de courir. C'est un peu un cercle vicieux, tu t'entraînes moins, donc t'as envie d'en faire moins. Ouais. Et donc je faisais des petites courses pour m'amuser, mais vu que j'étais pas performant, j'étais pas forcément heureux non plus. Parce que chacun cherche quelque chose dans une course, et moi c'est quand même pas mal la performance en règle générale. Et donc du coup, je me suis lancé des défis un peu différents et du coup, j'ai décidé d'aller sur le marathon des sables. Donc pour expliquer ceux qui connaissent pas, parce que je connaissais pas en fait moi le marathon des sables, vu que je suis à la base quelqu'un qui fait de la course à pied sur route et sur piste, c'est un ultra trail qui fait 260 km dans le désert du Sahara en autonomie complète. Donc avec ton sac à dos, ton duvet, ton matelas et ta nourriture pour 7 jours. Et voilà, c'est des étapes, 35 bornes, 80 bornes, 60 bornes, 40 bornes tous les jours. Et donc en fait, je me lance là-dedans et je me dis on va voir ce que ça donne. Et difficile, trop dur. Là, l'étape de 80 km, déshydraté complètement, je vomis partout, je peux plus me lever. Dès que je me lève, je fais 100 mètres, je retombe, je peux plus m'alimenter. Je me dis je vais abandonner.
T'avais pas spécialement d'expérience,
zéro expérience trail, zéro expérience longue distance. Zéro expérience chaleur. En plus, on fait ça en octobre parce que normalement c'est au mois d'avril. Mais là, Covid s'est décalé en octobre. Il fait 15 degrés de plus. On tape des températures à 50-55 degrés. Je me tape l'édition la plus difficile qu'il y ait eu au Marathon des Sables. Plus de 50% de taux d'abandon. Tu vois le truc genre qui n'existe pas normalement. Vraiment difficile. Et je me dis, j'ai pas le droit d'abandonner. Ça a jamais fait partie de mon. Je me suis pas laissé le choix, je voulais absolument pas abandonner. Tu vois, ça fait vraiment pas partie de mon vocabulaire et je voulais pas, même si quand j'étais allongé, il y en a plusieurs qui voulaient appuyer sur ma balise. J'ai dit écoute, il y a une phrase que je raconte tout le temps, c'est la douleur est éphémère, l'abandon est définitif. OK, mais cette phrase-là, je me la répète à chaque fois. Je sais que ça va être un moment dur, 3 heures, 4 heures, 5 heures, je sais que ça va être dur. Mais comme à Koh-Lanta, tous les gens qui abandonnent, dès qu'ils mangent, ils regrettent. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent plus aller plus loin, donc ils se disent je peux plus, j'arrête, et une fois qu'ils mangent, ils se disent ah, je pouvais aller plus loin. Dès que tu abandonnes, tu rentres chez toi le soir, sauf cas urgent, grosse blessure où tu peux plus, voilà. Mais quand t'es pas au bout de tes limites, tu peux continuer. Et ce qui est drôle, c'est qu'au 60e kilomètre, moi, je pouvais plus avancer, je vomissais, etc. J'ai mis 3 heures pour faire 3 kilomètres, et d'un coup, je sais pas pourquoi, ça allait mieux. J'ai pu repartir, j'ai marché, j'ai réussi à me réalimenter, et j'ai fini du 70e au 80e en courant. Il était 3 heures du mat, et ça allait. Et la satisfaction que j'ai eue à l'arrivée, elle était à la hauteur de la difficulté que j'ai eue à finir ce marathon des sables. Elle était incroyable. Et il y avait pas ce côté performance chronométrique comme je peux avoir sur 3000 steeples ou sur le marathon de Paris que j'ai décidé de faire après pour vraiment avoir le côté compète, mais c'est ce que j'ai découvert dans le trail, c'est le côté finisher que moi j'aimais pas trop côté finisher où on disait voilà, c'est vrai qu'on avait tendance à dire toi t'es nul, tu fais du 3000 et du 10 km alors que mon voisin il fait des 90 km, il est plus fort. Oui. On a souvent eu du mal les athlètes à entendre ça parce que c'est dur quand on s'entraîne tous les jours.
En plus c'est souvent des gens qui connaissent
exactement
pas grand chose.
C'est dur à entendre. Oui. Mais en fait, j'ai compris dans le sens où quand tu fais du trail, quand tu termines, c'est vraiment ce sentiment d'être allé au bout de toi-même et d'avoir terminé sur les longues distances. Et ce que j'ai vécu à Koh Lanta, la difficulté que j'ai eue à surpasser la nourriture, le confort, etc. pendant 39 jours où je me suis toujours dit, mais là, je vais pas pouvoir continuer, je vais devoir abandonner parce que j'y arrive plus. Et en fait, tu peux repousser tes limites. Et bah ça, je les retrouve dans l'ultra trail, qui est bah du coup le marathon des sables, ou comme la semaine dernière à l'OCC où là j'ai mal géré ma course, je suis parti trop vite, je l'ai pris à la légère, j'ai fini les 20 derniers kilomètres avec des crampes où je pouvais absolument plus avancer. Je me suis dit, je fais quoi, j'abandonne? Bien sûr que non, je continue. C'est dur pour le moment, mais quand ça sera fini, ça sera magique. J'ai fini et à la fin, bah pareil, satisfaction de fou. Donc en fait, c'est ça que j'aime dans le trail, c'est aller chercher cette difficulté, ce moment où tu sais que t'es hors de ta zone de confort, mais la vraie, celle où tu te dis, je peux plus continuer, je vais plus y arriver, je suis au bout de moi-même. Et que si, en fait, tu y arrives, tu vois, tu y arrives.
Et c'est comparable un peu les ressources qu'il faut, justement, entre la faim que tu peux ressentir à Koh Lanta et justement ces crampes ou cette déshydratation que tu peux connaître dans le désert, tu vois. C'est similaire un peu. Enfin, j'imagine la ressource et le trait de caractère d'avoir du courage et de la résilience. Ça, c'est la même chose, tu vois. Mais il y a eu des... Je sais pas, t'y repensais justement à ces moments durs dans Koh Lanta ou...
En fait, je me dis vraiment, je le dis clairement, je pense que je pourrais jamais avoir quelque chose de plus difficile que Koh Lanta. Vraiment, c'est la chose la plus difficile, je pense, qui puisse exister, être privé de nourriture, de confort, de ses proches, de tout pendant 40 jours, 50 jours, parce que avec le voyage, etc.
À côté, quoi.
Que maintenant. Je dirais pas que ça me semble facile, mais dans les moments où je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Parce que tu te le dis.
Tout le monde.
Qu'est-ce que je fous là? Plus jamais. Ça sert à quoi de faire ça? J'ai rien à prouver à personne. Je m'embrouille tout seul. Je suis énervé contre moi à me dire, pourquoi tu te mets dans ces situations-là? Regarde, t'es en train de vomir au milieu du désert, la gueule dans le sable, et t'es content. Et en fait, voilà, je vais chercher ça au final. Et dès que j'ai terminé, tu vois, je me dis, ha! C'était incroyable quand même, cette sensation de se dire que tu peux plus avancer et que tu termines, tu vois. Et c'est cette sensation que je retrouve entre Koh Lanta ou Marathon des Sables ou les prochains objectifs que je me fixe. La similitude, c'est vraiment sortir de sa zone de confort, être face à l'échec. Tu vois, moi, en fait, je pense que il faut être en situation d'échec pour sortir de sa zone de confort.
Ouais.
Et ça, en course à pied, sur 3000, sur 10 km, etc., j'étais tellement préparé, tellement en mode performance que... Au pire, tu loupes ton chrono. Au mieux, tu bats ton chrono, mais t'as pas cette sensation d'échec et cette sensation de je peux plus avancer, je vais abandonner. Et tu vois, c'est trop dur, j'ai envie de chialer, quoi. Ouais. D'ailleurs, tu chiales, quand t'es dans ces situations-là, t'as les larmes aux yeux parce que tu te dis c'est trop dur. C'est juste assez incroyable derrière la sensation et le bonheur. En fait, la satisfaction, elle est à la hauteur de la difficulté, je pense.
Ouais, c'est vrai, tout à fait. T'as mentionné tes prochains défis? Qu'est-ce qu'il y a dans ta petite liste?
Ouais, alors j'ai le Half Marathon des Sables, donc c'est bien parce que j'ai commencé par le Marathon des Sables, donc là je fais que la moitié et à Fuerteventura, donc c'est pas, la course la plus difficile qui m'attend. Mais du coup, on m'a dit t'es pas capable, donc du coup j'ai dit ok, je signe, je fais la Diagonale des Fous.
Ouais.
Absolument pas du tout mon secteur. Le trail le plus long que j'ai fait, du coup, c'est les 56 km il y a deux semaines. Et là, du coup, c'est un des trails les plus durs du monde par son profil, 170 km, je crois, 10,005 de dénivelé, mais surtout un profil très compliqué pour courir, beaucoup de roches, l'humidité, la température.
Ouais.
Voilà, c'est un sacré défi et
c'est une belle course. Ouais.
Et en fait, on m'a dit, je pense que t'es pas capable. Et du coup, j'ai dit, ok, bah je m'inscris. c'est un peu comme ça en mode défi. Et là, c'est vraiment l'objectif, ça sera de terminer comme je peux. J'espère pouvoir finir. Ouais. Donc c'est vraiment différent en fait entre ces ultra trails, ces trails où mon objectif c'est de terminer parce que je suis pas assez compétiteur et pas assez entraîné. De toute façon, c'est un sport totalement différent que la course à pied sur route. à une course comme le marathon de Paris que j'ai préparé en partant au Kenya, etc., en ayant vraiment un objectif chronométrique où là j'étais vraiment dans la performance, où j'ai pris le départ et je savais où je voulais aller, l'allure que je devais faire, et là c'était vraiment la performance et j'ai aussi besoin de ça. Donc moi en fait je suis un peu tiraillé entre les deux, mais c'est pour ça que je fais un peu des deux. Je reviendrai sur marathon pour essayer de battre mon record avec une vraie préparation, je repartirai au Kenya parce que c'est assez incroyable là-bas, etc. Mais à côté de ça, j'ai besoin d'avoir cette situation d'échec et de dépassement de soi que je retrouve seulement dans les ultra trails.
Ouais. Bah t'as toujours une adrénaline quand tu vas rajouter de la distance, t'as une adrénaline supplémentaire, tu vois, d'aller chercher encore plus loin, de chercher ta limite, tu vois. Et c'est, tu vois, on en parle souvent sur ce podcast, tu vois, de même de la découverte du trail où t'as un peu cette boulimie du au début de vouloir faire toujours plus long,
c'est
toujours
ça, exactement,
dur, toujours au-dessus, et certains n'en sortent jamais, tu vois, et c'est pour ça qu'il y en a qui vont se faire des courses, tu vois, de 350 bornes ou quoi.
Ah,
et,
incroyable.
C'est assez dingue, tu vois, ce que ça fait au corps. Ouais.
Mais tu me remets 4 ans en arrière avant Koh-Lanta quand je suis à fond dans une saison 3000 steeple, mais moi je les prends pour des barges et des dégénérés, ceux qui, c'est quoi l'intérêt d'aller faire 180 bornes. En fait, je comprends pas l'intérêt, vraiment je le comprenais pas. Et après voilà, petit à petit en faisant des courses différentes, je crois que j'ai compris, tu vois. J'ai compris et je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que c'est différent, t'as pas ce côté compète.
Ouais.
T'as pas ce côté compète. Bon, bien sûr, c'est pour les premiers. Ouais. T'as pas le côté compète que tu peux avoir un peu plus sur route où il y a toujours le chronomètre, etc. Et que j'adore. Hein. Moi, j'adore ce côté chronomètre où tu te vois progresser, etc. Mais je comprends aussi que certains aiment le trail et bah voilà, le paysage que ça nous offre, l'ambiance qui règne dans le monde du trail, etc. Et c'est une belle découverte.
Puis c'est le défi avec toi-même, tu vois.
Ah bah,
c'est le défi
totalement.
Avec toi-même.
Totalement.
Comme tu le dis, si le jour J, il y a un truc qui va pas, hein, dans, tu vois, et tu peux vraiment passer à côté de l'abandon, enfin passer proche de l'abandon,
ouais.
donc c'est assez ouf. T'as mentionné le Kenya pour où t'es allé 3 semaines, c'est ça?
Ouais, 3 semaines
pour ta prépa. Qu'est-ce qui t'a marqué? C'est quoi ton plus beau souvenir là-bas?
Mon plus beau souvenir, hein, franchement, c'est pas un mythe. Hein, c'est une fois, je me souviens, c'est arrivé régulièrement, mais ce jour-là, c'était assez incroyable. On fait un petit footing avec des athlètes confirmés qui font les Jeux Olympiques sur marathon. Voilà, il y avait
tous les plus grands.
Ouais, il y avait Nicolas Navarro, je me souviens. Il y avait Duncan. Bref, on était un petit groupe. On était à 15 à l'heure. Donc 15 à l'heure au Kenya, c'est en altitude. Hein. On était déjà bien acclimatés, etc. On était un peu sur un footing un peu actif sur route. Et bien évidemment, on passe devant des jeunes. Et là, il y a deux gamins. Je sais pas, je le sais, puisqu'on leur a demandé, ils avaient 9 et 10 ans, un en crocs et l'autre en espèce de rangers un peu bizarre, et genre ils nous suivent sur deux bornes, ils courent avec nous, normal, et ils sont trop contents,
ouais.
Et on leur dit, mais vous allez jusqu'où? Ils disent, mais on va à l'école, sauf qu'en fait on avait déjà passé l'école, mais ils étaient tellement contents de courir avec les Muzungu, donc c'est les blancs, ouais. Qu'en fait ils étaient à côté de nous, ils couraient, mais avec une aisance. Je me dis, le mec a 9 ans, il est à 15 km/h en crocs. T'imagines, c'est incroyable. Alors que nous, on est confirmés, on est là, on lutte. Et en fait, c'est là que tu te dis que là-bas, bah, en fait, c'est la course à pied, c'est un art de vivre, en fait. C'est culturel.
C'est dans le sang.
C'est ça, dès que tu cours, ils sont tous là, ils courent avec toi. Les enfants, ils te voient courir, ils courent. Tout le monde court. Le seul sport, c'est... Ils courent le matin, tu vas au marché, et bah eux t'y vas tous les mardis matins et les jeudis matins, t'as rendez-vous à 9h, t'arrives à 9h, il y a 100-200 personnes qui sont là, juste du village, hein, pour courir, pour faire un fartlek. Et il y en a un, il dit, bah aujourd'hui on va faire 20 fois une, et voilà, et ça part. Et c'est mais un boxon. Derrière, ils ont pas de montre, donc ça a fini au seuil parce qu'en fait ils ont plus les bips, etc. Donc c'est incroyable, c'est vraiment c'est culturel. Et ça, c'est vrai que bah voilà, ça transpire la course à pied là-bas. C'est vraiment génial, c'est vraiment chouette. C'est en altitude, il y a beaucoup de parcours pour courir, très très vallonné. Donc ça permet quand même de beaucoup travailler. Par contre, c'est vrai qu'il faut pas regarder les allures par rapport à la France, quoi. Ça a rien à voir puisque chaque footing est difficile. Le moindre footing de récupération, ça monte, ça descend en altitude, donc c'est difficile. Donc tu vas moins vite, mais une expérience vraiment incroyable Je la conseille à tous les amoureux de course à pied.
Ouais, complètement. C'est pour moi le berceau de la course à pied, tu vois. Et effectivement, quand on voit tous les grands champions qui sont sortis de ces petits villages, tu vois, qui payent pas de mine, quand t'arrives et qu'on te dit c'est ici qu'est né Kipchoge.
Exactement.
Ou, tu dis non, vous êtes sérieux là.
On a couru d'ailleurs avec Kipchoge sur piste. On a fait une séance. Il était là et du coup pour la photo, j'ai accompagné sur 150 mètres quand même pour avoir ma photo. J'ai fait un peu le fan. J'étais un peu gêné. Il était en pleine séance. Je me dis ça se fait pas si je le fais, mais en même temps, je regretterai toute ma vie si je fais pas ma photo avec Kipchoge. Du coup, j'ai pris sur 200 mètres, je me suis mis à côté de lui. Bon, il a l'habitude, mais c'est vrai que du coup, nous, on était dans un centre d'entraînement français ouais. qui connaissent très bien les parcours, qui nous ont vraiment emmené voir Kipchoge. Ils savent à quelle heure à peu près ils s'entraînent, etc. Et c'est vrai que pour ça, Renick, c'était vraiment le top. Et nous, on s'est vraiment éclaté à aller là-bas. Et voilà, on était vraiment dans des bonnes conditions pour s'entraîner.
Bon bah trop bien. Écoute, ça donne l'eau à la bouche et effectivement ça doit être une belle destination.
Ouais.
Je voulais qu'on termine un petit peu sur ton livre, sur ce super projet. Il faut qu'on en parle. Comment est venue l'idée? Raconte-moi un peu la genèse du projet, comme disent les journalistes.
Ouais, c'est assez incroyable hein, tout ça. Bah tu vois, enfin tout dans ma vie comme ça s'enchaîne. J'ai pas prévu. Hein. Si tu penses que quand j'ai postulé à Koh-Lanta, je me suis dit un jour j'ai créé un livre, tu vois, c'est juste des choses incroyables qui se passent. Et c'est vrai que du coup, la maison d'édition First avec mon agence sont venus me parler de ce projet-là en me disant on voudrait que tu écrives un livre sur la course à pied. Je les ai regardés, j'ai cru que c'était une blague, vraiment. Je me suis dit, ah ouais, mais là, écrire un livre, c'est compliqué. Et ils m'ont dit, pense sérieusement au projet, on veut vraiment que tu apprennes aux gens à courir indirectement, que tu leur donnes tous les tips, etc. Et le but, c'est que ils lisent ton bouquin et à la fin, ils sont capables d'aller courir presque. Donc j'ai trouvé le projet assez intéressant et motivant, même si je savais pas trop comment faire. Donc moi j'ai un ami qui s'appelle Julien qui avait déjà écrit 2 livres. Voilà, on a un très très bon ami en commun. On s'est rencontrés, je lui ai parlé de ça, lui m'a dit t'inquiète, c'est facile à faire, etc. Il avait fait un livre sur la nutrition et sur le sport, donc quand même très très cohérent. Et je lui ai dit écoute, si t'es partant, on se lance dans l'aventure ensemble parce que moi je vais avoir besoin d'être épaulé. Mmh. Et on s'est lancé comme ça. J'ai rappelé la maison d'édition, j'ai dit ok, feu, je vous présente Julien, on a fait une visio, ça a matché et puis voilà, c'est parti et on a écrit ce livre ensemble. Très très dur hein, d'écrire un livre, très très dur. Écrivez un livre sur la course à pied, c'est pas facile. Parce que mon entraînement, c'est pas l'entraînement que je mets dans ce livre-là, puisque le but du livre, c'est pas comment courir un marathon en 2h27. Le but, c'est vraiment de toucher tout le monde. Et voilà, je te dis que je commence ce livre en disant les motivations pour courir et en expliquant toutes les valeurs que procure la course à pied et où tout le monde pourra se retrouver dedans en se disant ah ouais, c'est exactement ça. Si vous n'arrivez pas à mettre des mots sur vos pensées, pourquoi vous courez, pourquoi vous aimez ça et pourquoi vous aimez les gens qui couraient, bah vous allez retrouver des buts. Et après bah voilà, ça commence comment courir, les premiers pas, comment s'équiper, où courir, et puis au fur et à mesure comment progresser avec du fractionné, des séances types, du renforcement musculaire, un plan de nutrition. Après j'ai fait un petit plan de course à pied. Ouais. Donc voilà, au fur et à mesure on a mis des choses dedans, et puis voilà, le bouquin devenait de plus en plus intéressant. Après, j'ai récupéré des témoignages de personnes que je pense inspirantes, des sportifs, Jimmy Gressier, que tout le monde connaît dans la course à pied, qui est un ami et voilà, qui a un parcours formidable, mais aussi Camille Lacour, champion du monde de natation, qui se met à la course à pied, mais vraiment en tant que débutant.
Ouais.
Thomas Vauclair, champion de vélo aussi, qui lui aussi se met à la course à pied. Voilà, que des gens qui courent, mais aussi des gens qui sont en surpoids, par exemple, mais qui ont appris à courir et à commencer doucement, en alternant marche, course à pied. Donc vraiment, dans ce livre, c'est vraiment... apprendre à courir, avoir tous les tips pour courir et bien sûr derrière bah voilà en savoir un petit peu plus sur la récupération, prendre des exercices, etc. Je suis très content de pouvoir écrire un livre sur ma passion, quoi. C'est juste quelque chose d'incroyable.
Bien sûr, ouais.
C'est... Et voilà. Et puis bah c'est vrai que Denis Brognard du coup a prêté sa plume à la préface. Donc voilà,
petite
encore
cerise sur le gâteau.
Bah ouais, bien sûr. Bah, c'est trop beau tout ça, c'est trop beau. Et mais c'est très très compliqué hein, de d'écrire un livre, surtout que ça fait peur. Tu sais pas comment il va être reçu.
Ouais.
Moi c'est ma vision de la course à pied, c'est ma vision de voir les choses. Je dis pas qu'elle est parfaite, je dis pas qu'elle est que c'est celle-là et qu'il y en a pas d'autres. Voilà. Je disais il peut y avoir 10 coachs de 10 champions olympiques, ils ont 10 façons différentes de s'entraîner, pourtant ils sont tous champions olympiques dans une catégorie.
Ouais.
C'est mon point de vue. S'il y a des spécialistes qui seront pas d'accord avec certaines choses, moi je demande qu'à en discuter et qu'ils me donnent leur point de vue. Je dis pas tout connaître et tout savoir et avoir vraiment la connaissance ultime, mais en tout cas, je suis vraiment très content de cette œuvre et vraiment, je le trouve vraiment magnifique. Les couleurs, elles sont belles, les photos sont belles. Pour ceux qui savent pas lire, vous inquiétez pas, il y a plein de photos aussi. C'est génial. Donc voilà, n'hésitez pas à le prendre pour mettre sur votre table de chevet.
Non, mais écoute, franchement, tu vois, pour l'avoir bien parcouru et tout en préparant l'interview, chapeau, tu vois, parce
c'est
que
vrai.
Au début, j'avais un tout petit peu peur parce que effectivement, tu commences avec un point de vue très orienté pour les débutants.
Oui.
Tu vois, tu t'adresses vraiment à des gens qui presque ils courent pas.
Exactement.
Et en fait, petit à petit, en fait, on a l'impression. Et j'ai failli décrocher à ce moment-là.
Okay.
Là, je te le dis, je te fais le feedback.
Non, mais c'est très bien. Mais merci parce que c'est le premier retour que j'ai, hein, vraiment.
Et tu vois, moi j'ai couru 5-6 marathons.
Ouais.
J'ai fait pas mal de triathlon aussi. Donc, tu vois, il y a des bases que j'avais déjà.
Bien sûr.
Je l'ai fait parce que, tu vois, je me suis dit, de toute façon, il faut que je le lise. Je vais rencontrer Dorian dans 4 jours, donc il faut que je le bookine quand même. Et plus ça avançait. Plus effectivement, j'étais surpris et agréablement parce que il y avait des nouveaux savoirs et en fait plus t'avances dans le bouquin, plus t'apportes des nouvelles connaissances et plus tu ajoutes de l'information. Et c'est vrai que au final, j'ai pris un peu de recul, je me suis dit ah ouais, c'est vraiment un livre complet, tu vois, parce que tu parles effectivement de nutrition, tu parles de blessures, tu parles de récupération, de sommeil, tu parles de comment créer sa séance, comment créer un plan d'entraînement, et finalement il n'y a pas tant que ça, tu vois, des œuvres un peu de référence avec tout, ou au moins si tu veux avoir 95% de ce qu'il faut savoir, c'est même 100% de ce qu'il faut savoir pour débuter, c'est dedans, j'ai trouvé ça vraiment vraiment de qualité, tu vois.
Ça me vient droit au cœur. Franchement, merci beaucoup.
Plus que pour les débutants, tu vois, moi j'ai lu des bouquins de spécialistes, tu vois, je suis rentré dans des fois des livres hein, beaucoup plus pointus. On sent que c'est pas ta cible, ça c'est clair.
Bien sûr.
Mais
ça sera pour le deuxième.
J'attends ça avec plaisir. Tu vois qu'on avait trouvé une raison de se revoir, tu vois. Donc franchement chapeau, et je sais que c'est pas un exercice facile d'écrire un livre, ça fait toujours un peu peur au moment de sa sortie de se prendre un petit peu les retours, mais écoute, moi je te tire ma révérence et je te dis bien joué. Voilà.
Franchement, non, merci beaucoup, ça me vient droit au cœur, mais c'est vrai que c'est compliqué et pour pas mentir, il y a plein de choses en fait, comme comment s'habiller, quoi mettre, etc., ou courir, que j'avais même pas mis moi dans le livre en fait, tellement ça me paraît normal. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a il y a des gens là, la maison d'édition, qui relisent, etc. Oui, mais comment on fait pour s'habiller? Et voilà, et en fait c'est ça, et moi c'est là où c'était difficile, c'est que moi je suis quand même un athlète confirmé et que parler à un débutant, c'est vraiment reprendre les bases de la course à pied. Et c'est pour ça qu'on commence vraiment avec les bases pour les débutants et que ça monte crescendo pour que le débutant puisse avoir un panel du début jusqu'à la fin, mais que les gens qui savent déjà courir, quand même à un moment donné ils savent qu'il faut mettre des baskets plutôt que des Rangers pour courir. Mais au bout d'un moment, effectivement, j'espère leur donner en tout cas des tips et certaines clés pour progresser, etc. Et en fait, ce que tu dis sur le bouquin, ça me plaît parce que c'est exactement ce que j'ai voulu faire. Et effectivement, ça commence aux débutants, mais le but du bouquin, c'était, tu sais pas courir, tu prends ce livre et à la fin, tu dois savoir courir. Et je pense que si tu sais déjà un petit peu courir, tu pourras quand même trouver des choses. Maintenant, si tu fais déjà les Jeux Olympiques, effectivement, ce bouquin n'est pas ta cible, mais pour me faire plaisir, tu peux quand même l'acheter.
Pour l'offrir.
Exactement. Mais vraiment, c'est.
Ouais, moi, j'ai pensé à ça. Souvent, tu vois, moi, j'ai beaucoup aidé, tu vois, j'ai des auteurs, enfin, plus des infopreneurs qui écrivaient des livres, justement, un peu à les marketer et à comprendre comment, qu'est-ce qui faisait que certains livres marchaient très bien. Et en fait, il y a un truc qui est assez marrant, c'est que les livres qui marchent très bien, c'est les livres qu'on achète pour soi, mais aussi qu'on offre, tu vois, qu'on a envie d'offrir. Mmh. Et je trouve que c'est un bouquin qu'on a envie d'offrir aux gens autour de soi qui se mettent à la course à pied et lui dire hop, voilà, ça fait 2 semaines que tu cours, tu veux déjà t'inscrire au marathon, lis ça un peu avant, comme ça t'auras les bases. Et du coup, c'est tout ce que je te souhaite. Donc si vous avez des gens autour de vous qui commencent la course à pied ou qui veulent s'y mettre, vous savez quoi leur offrir, ça leur fera un beau cadeau pour
ça. Ça sera vraiment utile, je le pense sincèrement, parce que vraiment les choses que j'ai écrites, je les ai écrites avec le cœur et avec toute la passion et le savoir que je peux avoir sur la course à pied que je pratique depuis des années. Et je pense vraiment, et je le sais puisque moi je suis quand même aussi coach sportif, donc j'entraîne des gens et donc j'entraîne de tout niveau. Et voilà, ce que je dis à mes athlètes, c'est exactement ce que je dis dans le livre. Donc je pense vraiment que ça peut être utile. Et en plus il est cool, il est beau.
Ouais,
il est beau.
Bon, écoute, l'heure a bien tourné, tu vois.
Ouais, ça passe vite.
On n'a pas eu le temps de faire tous les sujets, mais bon, c'est déjà quand même bien régalé. Et t'as dégagé une énergie de dingue, donc je suis sûr que les auditeurs vont adorer et qu'ils auront envie peut-être de retrouver cette passion et cette fougue dans ton livre.
J'espère. Si vous m'écoutez, la prochaine fois que vous me voyez sur une course, vous venez me voir et on discute ensemble avec grand plaisir, vraiment sincèrement.
Voilà, mais je peux vous confirmer, Dorian, est hyper accessible et n'hésitez surtout pas vraiment à aller le croiser ou même à lui envoyer un petit message sur les réseaux.
Avec grand plaisir.
Ça fait toujours plaisir, comme on dit. On arrive à la fin de cette interview et comme tu le sais, il y a la dernière question, c'est un peu un passage de flambeau, tu vois, mais c'est pas vraiment un passage de flambeau, mais plus un passage de micro. Et c'est de savoir quelle est la prochaine extraterrienne et le prochain extraterrien que tu me recommandes d'aller interviewer justement pour parler un peu performance, pourquoi pas parler Koh-Lanta, pourquoi pas parler trail ou marathon des sables, peu importe. Mais quelles seraient tes recommandations pour des interviews inspirantes et pleines d'énergie?
Je vais te donner deux personnes qui cochent toutes ces cases. La première, elle nous a fait vibrer récemment sur l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc. C'est Mathieu Blanchard. Vraiment, si tu peux le rencontrer, ce mec-là est super inspirant. On s'est connu sur Koh-Lanta, mais c'est pas là où il a fait parler de lui. C'est vraiment par ses performances de trail. C'est juste un mec exceptionnel et franchement, c'est génial. Et du coup, sa compagne, qui est elle, mon amie sur Koh-Lanta, avec qui j'ai vraiment avancé dans le jeu beaucoup plus qu'avec Mathieu, qui est Alix Nobla et qui commence le trail. Donc elle, vraiment une nouvelle dans cette discipline. Donc j'innove pas en restant un petit peu dans la course à pied, mais c'est vraiment deux belles personnes et je suis sûr que si t'arrives à les avoir, ça sera des personnes vraiment inspirantes et cool à écouter.
Écoute, avec plaisir, merci beaucoup pour ces recommandations et effectivement tous les deux je les trouve très inspirants, donc voilà. ils feront de super invités.
Voilà, on les appelle Alix, Matt, vous êtes les prochains.
Voilà. Merci beaucoup Dorian pour ce super moment, c'était vraiment cool. T'as une énergie de dingue, très contagieuse et tout, donc ça fait plaisir. Et comme on dit chez moi, il y a que les montagnes qui se recroisent pas.
Exactement.
Donc je te dis à très bientôt.
À très vite, merci beaucoup.
Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.